c'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie.
Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment ?
Autant de personnes, autant de réponses. Star Wars m'est arrivé tout à l'heure par texto. Terminator 2, Amityville, Miracle sur la 34e, Retour vers le futur, Crazy, plus récemment. Et d'autres me disent, entre autres, traumatisé à l'âge de 5 ans, le chat avec Simone Signoret, parce qu'elle tue le chat, puis j'ai éclaté en sanglots. J'avais 5 ans.
Amélie Poulain, t'as dû en recevoir.
Oui, Amélie Poulain, je l'ai reçu aussi.
Parce que c'est un film marquant, c'est un grand film. Marc-André, toi... Marc-André Lucie, qu'on va présenter première des choses. Marc-André Lucie.
Bonjour,
journaliste à la presse, ben oui. qui est non seulement un journaliste que j'aime beaucoup, mais sur le plan humain aussi. Marc-André a toujours été un collègue que j'appréciais par sa gentillesse, sa générosité, et je suis absolument assez en accord avec lui, avec ses critiques. Moi, je pourrais dire à 80 % Donc, Marc-André...
Parlons du 20 %
Exactement. Parfait, c'est pour ça que vous êtes là, justement.
Marc-André, tu viens nous présenter de la réédition de ton livre 350 films à voir ou à revoir, mais je veux revenir sur Amélie Poulain. C'est un des films que tu considères marquant.
Ben oui, absolument. D'ailleurs, c'est le numéro 1 de mon top 10 en 2001, si je ne fais pas erreur, parce que ce livre est constitué de toutes les listes de mes 10 films favoris au cours des 35 dernières années. Alors, ce sont des listes tout à fait subjectives. Et puis, oui, Amélie Poulain, bien sûr, on avait tellement aimé ça quand c'est sorti.
Ben, je pense que ça, c'est pas mal un chef-d'œuvre.
Je pense que ça s'en approche. Film. Et puis, c'est tellement un film qui fait du bien à l'âme, en plus, et tellement bien fait, et qui nous avait... Bon, c'était pas une révélation, parce qu'on l'avait déjà vu dans quelques films auparavant, Audrey Tautou, mais c'est vraiment le film qui a marqué sa carrière, et qui l'a lancé de façon fulgurante.
Marc-André, on a l'impression souvent que lorsqu'on parle de critique de cinéma, on va souvent aller dans le film qui est un peu moins accessible au grand public. Ouais. Et je pense que ça peut taper aussi un peu les gens qui sont des néophytes, qui sont des consommateurs de cinéma occasionnels, comme je suis. Ouais. Là, je tombe en 2017, puis je regarde les films que tu as choisis.
Ouais, puis c'est pas si pire.
Ben non, Call Me By Your Name, Dunkirk, qui sont des films grand public.
Absolument.
Blade Runner, troisième.
Absolument.
Donc, c'est pas de l'élitisme. Mais trouves-tu que ça se la joue un petit peu encore?
Ben, ça dépend. C'est sûr que chaque critique a son approche personnelle. Il y a certains critiques qui vont préférer faire découvrir des œuvres, parler d'œuvres qu'ils estiment nécessaires de parler, même si c'est plus dans la marge. Alors que d'autres, évidemment, quand on travaille dans un média à vocation plus, populaire, entre guillemets, ou en tout cas
le grand public,
c'est sûr qu'on tient compte aussi des gens à qui on s'adresse. Puis moi, j'ai le grand bonheur d'aimer à peu près tous les styles de films. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un va décrier le cinéma d'auteur pur et dur, ben là, j'aurais tendance à le défendre. Mais si quelqu'un décrit aussi le grand cinéma populaire bien fait, j'aurais tendance à défendre le cinéma populaire bien fait aussi.
Comment t'es tombé en amour avec le cinéma?
C'est arrivé à l'adolescence et puis c'est comme, je dis, bon, évidemment, moi quand j'étais adolescent, je suis d'une autre génération que vous, messieurs, dames. Et donc moi, j'ai vécu mon adolescence à l'époque où c'était les Rocky, les Saturday Night Fever, c'était, la deuxième partie des années 70. Et donc, ce sont ces films-là que j'ai découverts en premier, dont le premier Star Wars, dont personnellement, j'ai jamais été fan. Et dans mon groupe d'amis, on n'a jamais compris pourquoi. Je trippais plus sur Rocky puis Saturday Night Fever, puis ces films-là, mais bon, on pourra en reparler. Et un jour, j'ai aussi vu, à sa sortie, le film Le Dernier Métro, de François Truffaut, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu. Là, on était en 1980. Et ça m'a fait découvrir comme une autre sorte de cinéma. Bon, bien sûr, on est nourri... surtout du cinéma américain lorsqu'on vit à Montréal, quoique on avait accès aussi beaucoup au cinéma français. Plus que maintenant. Sauf qu'à l'adolescence, bien souvent, ce sont les grands films populaires qui nous attirent davantage. Mais en 1980, j'ai découvert Le Dernier Métro de François Truffaut et j'ai été tellement saisi par ce film-là que j'ai eu envie de découvrir toute l'œuvre précédente de François Truffaut que je ne connaissais pas encore. Et ça a été vraiment une révélation. Et à partir de là, ça a été vraiment boulimique, là. Et à cette époque, se construire une culture cinématographique, pour se la construire, il fallait aller dans les cinémas de répertoire. Mmh. Les vidéoclubs, ça n'existait pas encore. Et donc, à Montréal, il y avait le Wimetoscope, il y avait le cinéma CV, il y avait plein de grands cinémas de répertoire. Il y avait la Cinémathèque aussi qui existait. Et moi, je passais mes soirées là à voir deux films différents par soir. Et puis, je m'en suis jamais...
Jamais remis?
Non, je m'en suis jamais remis. Je m'en suis même fait un métier.
Okay. Marc-André, dans ton livre, évidemment, il y a les listes à chaque année, là, ton top 10, mais tu racontes aussi des rencontres que tu as faites au gré de ton travail. Et moi, ça me fait rire, il y avait Kevin Costner que tu as rencontré à un certain moment où il était très, très populaire. Mm-hmm. Et puis tu dis, c'est assez rare que tu peux passer 30 minutes dans une pièce avec un acteur sans que la garde rapprochée, les attachés de presse soient autour et tout.
C'est ça, parce qu'habituellement, de la façon que ça se passe avec les acteurs hollywoodiens, bon, on peut les rencontrer seul à seul. Habituellement, c'est... Ils vont vous allouer genre 10 minutes. Et là, il y a une armée de relationnistes qui restent dans le couloir pour écouter la conversation. Mais là, cette fois-là, Kevin Costner faisait la tournée des grandes villes américaines et moi, on m'avait offert d'aller le rencontrer à Détroit. Donc, je m'en vais à Détroit, je rencontre Kevin Costner et là, c'est comme une entrevue seul à seul pendant 30 minutes, ce qui est un grand luxe dans le domaine du cinéma. Et vraiment, c'était une conversation vraiment très franche et puis seul à seul, alors qu'il n'y avait aucun entourage autour, ça m'avait assez surpris.
Woody Allen qui appelle à la maison.
Ouais, rien de moins quand même. Mais Marc-André, comment tu expliques? Kevin Costner, pour moi, est un phénomène... C'est un phénomène en soi.
Oui.
Comment quelqu'un qui est au firmament peut faire autant de mauvais choix pour que sa carrière dégringole à la vitesse de l'éclair?
Ben, c'est drôle parce que Kevin Costner, il a été vraiment révélé au monde en 1987 grâce au film de Brian De Palma, The Untouchables. Il avait aussi tourné un trailer avec Sean Young à l'époque qui s'appelait No Way Out. C'est un film qui est tombé dans l'oubli, mais qui avait été très, très, très populaire à l'époque. Et c'est ce qui avait installé son image de star. Et après ça, il s'est mis à faire de la réalisation. Ça a très bien fonctionné la première fois avec Il danse avec les loups. Il a même gagné l'Oscar de la meilleure réalisation et tout ça. Et après, je pense que il s'est un petit peu trop cru.
Le flop de Waterworld.
Oui, puis il s'est mis aussi à réaliser des films extrêmement pompeux, extrêmement... ambitieux, mais ça ne marchait pas. Et le coup de grâce a été donné par Madonna dans un documentaire qui s'appelait Truth or Dare, où Kevin Costner est arrivé dans les coulisses et puis Madonna s'est retournée puis elle s'est mis un doigt dans la bouche en disant, tu sais, c'est comme, tu sais, il est tellement plus hot. Oh, donc,
le coup
donc,
de grâce.
Ça a été difficile pour lui de s'en remettre, mais maintenant, on fait appel à lui pour des bons rôles de soutien.
Ouais.
Et je trouve qu'il se débrouille bien là-dedans. Dans Hidden Figures, il était magnifique. Vous savez ce film là, sur les femmes là, qui étaient à la NASA?
Oui.
Et donc, je trouve qu'il a une présence solide à l'écran pour ce genre de rôle, en tout cas.
J'ai une dernière question parce que le temps file rapidement, mais Forrest Gump, je sais que, Catherine, tu notais que dans le livre, ça faisait partie, pour toi, ça a changé quelque chose dans le film, Marc-André Lucier. Et ça revient, tu sais, tantôt je disais les films qui revenaient le plus souvent là, dans les choix des auditeurs, Forrest Gump revient le plus souvent.
Ben, je ne sais pas si ça a changé quelque chose dans l'histoire du cinéma, mais c'était un film absolument extraordinaire sur le plan du récit, mais aussi sur le plan technique, parce que d'insérer toutes ces scènes-là...
C'était une relecture de l'Amérique.
Une relecture de l'Amérique, et ça fonctionnait mais vraiment magnifiquement. Et ça a valu à Tom Hanks son deuxième Oscar consécutif du meilleur acteur, ce qui est assez rare dans l'histoire des Oscars, sinon unique.
Moi, c'est la mini-question. Meryl Streep ou Catherine Deneuve?
Oh mon Dieu, c'est tellement différent. Mais je pense que, oui, Meryl Streep a une carrière extraordinaire. Elle est encore très active. Et puis, même passé la soixantaine, on lui confie des rôles extraordinaires. Et puis, des gens viennent. Et puis, des gens l'adorent. Et avec raison. Mais si, objectivement, on prend la filmographie de Catherine Deneuve, C'est imbattable, c'est incroyable, les grands cinéastes avec qui elle a tourné, les grands films qui font partie de sa filmographie. Donc, moi, je donne mon vote à Catherine.
Marc-André Lucier, mon cinéma 350 films à voir ou à revoir, c'est aux éditions La Presse.
Et tout ce qu'on vous raconte est dans le livre, et il y en a encore plus.
Oh, il y en a
c'est passionnant,
plus que ça.
C'est vraiment passionnant, oui.
Et je vous dis, c'est vraiment là, c'est à la portée de tous là. Et je tiens à le mentionner pour pas qu'on tombe justement dans une espèce de profil un peu élitisme du cinéma. Mmh. Absolument pas. Vous allez dévorer ça, puis c'est un bon guide. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci de m'avoir accueilli.
À la prochaine. Il est 10h32.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.